Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Franck Cazenave nous a rejoint. Bonsoir Franck.
Bonsoir François.
Vous êtes l'auteur de Tesla a tué la bagnole. Voilà, que j'ai entre les mains, paru aux éditions Descartes et compagnie, voilà.
Exactement.
Alors, vous êtes un spécialiste de tout ce qui touche à la mobilité, hein. Voilà, vous enseignez à l'école de commerce ESCA, vous donnez des conférences en France et en Europe, vous travaillez depuis 20 ans dans le domaine de l'innovation, des systèmes intelligents, enfin bref, vous connaissez tout ça par cœur. Vous avez déjà écrit un bouquin sur Stop Google, sur Google, c'était aux éditions Pearson en 2014, et même de la robot mobile, c'était en 2022. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Tesla ?
Bon, en fait, c'est pas tout à fait nouveau parce que déjà dans la robot mobile, donc qui parle des véhicules autonomes, j'avais dédié aussi des passages sur Tesla parce que Tesla veut développer le véhicule autonome avec une approche un peu différente par rapport à ses concurrents, qui sont Cruise, Waymo, Elon Musk est ferme, il ne veut utiliser comme capteur pour le véhicule autonome que les caméras.
Oui, c'est vrai.
Voilà, en disant que les caméras sont nos yeux.
Il y avait la bataille des lidars, et voilà. Et ceux qui utilisaient les lidars, et lui a dit, c'est pas la peine, ça coûte trop cher, on n'en a pas besoin.
Exactement. Et donc, pour l'instant, le pari n'est pas encore gagné, puisqu'il n'y a pas de véhicule complètement autonome de niveau 4, donc où le conducteur n'a pas besoin d'avoir les mains sur le volant, de surveiller la conduite, qui est dans la rue. Mais Tesla y travaille, et Elon Musk veut réaliser ce pari pour se différencier de la concurrence.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous dites que Tesla a donné un grand coup, en fait, à toute l'industrie automobile. De part déjà l'électrique, parce qu'ils ont misé très tôt sur l'électrique, alors que les historiques de l'automobile se réveillaient à peine, hein. On était en plein Dieselgate à l'époque, hein, pour vous dire un petit peu le contraste, mine de rien. Et l'informatique, parce que Tesla, c'est aussi des voitures qui se mettent à jour la nuit, quand on dort, et qui apportent de nouvelles fonctionnalités le matin, quand on rentre dans la voiture. Et ça, en fait, c'est compliqué pour les constructeurs automobiles traditionnels de s'en remettre, non ?
C'est-à-dire que les constructeurs traditionnels ont absolument besoin de se mettre au niveau de Tesla. Donc ça, c'est un enjeu pour eux. On entend beaucoup les constructeurs parler de software defined vehicle. Ça veut dire un véhicule qui a un ordinateur sur roue où on peut faire des mises à jour de logiciels. Et donc ça, c'est absolument important pour que l'expérience du conducteur, elle continue à évoluer dans le temps. Et puis, l'électrique, c'est vrai que Tesla a démarré en 2003. L'année dernière, Tesla a vendu 1,8 million de véhicules. Et donc, Tesla est le leader des véhicules électriques, loin devant tout le monde, sauf les Chinois, qui sont en embuscade, mais avec des véhicules qui coûtent moins cher.
Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Parce qu'on n'en est qu'au début de l'histoire de Tesla. Là, tout sourit à Tesla, alors qu'il y a encore quelques années, c'était une boîte qui était au bord de la faillite, hein, on s'en souvient. On évoque là un nouveau modèle qui devrait sortir dans quelques mois, enfin, ou quelques années, qui pourrait être un modèle peut-être plus adapté, en fait, aux Européens.
Tout à fait.
Donc, tout va bien pour Tesla.
Tout va bien. Donc cette année, le Roadster va sortir, qui a été le premier véhicule de Tesla, qui va être un véhicule très haut de gamme, sportif.
Ouais.
Voilà. Et puis effectivement, le grand enjeu, c'est le véhicule citadin, urbain, en dessous de 25 000 euros. C'est un marché colossal dans le monde. Il y a 750 millions de véhicules urbains. Et donc Tesla veut attaquer ce marché.
Ce qui est intéressant en plus avec Tesla, c'est que, et vous le dites très bien dans votre livre, c'est qu'il y a tout l'écosystème de l'automobile. Il y a l'automobile, mais il y a aussi 50 000 superchargeurs qui sont partout dans le monde.
Tout à fait. Donc, la grande différence de Tesla par rapport à tous les constructeurs automobiles, c'est aussi un énergéticien. Il vend de l'électricité. Et donc, il y a un chapitre qui est dédié sur cette partie. Et je pense qu'en 2030, la plus grande profitabilité de Tesla ne viendra pas des voitures, mais de la vente d'électricité.
La gestion d'énergie.
Exactement.
Donc, il va encore multiplier ses superchargeurs.
Tout à fait.
Qui sont ouverts à la concurrence. Alors, c'était pas lui qui le voulait, je crois. Hein. On l'a un peu poussé à devenir un petit peu universel, je crois.
Donc en fait, l'administration Biden a demandé à Tesla d'ouvrir ses réseaux à ses concurrents. Mm-hmm. En échange de subventions pour installer de nouveaux chargeurs. Donc en fait, Tesla est à nouveau gagnant avec plus de chargeurs qui vont être installés aux États-Unis.
La question aussi qu'on se pose, c'est que est-ce que les constructeurs historiques qu'on connaît, hein, qu'ils soient français, alors le groupe Stellantis, Renault, mais aussi BMW, Volkswagen, comment réagissent-ils par rapport au succès de Tesla ? Est-ce qu'ils suivent Tesla en le copiant ou est-ce qu'ils gardent malgré tout leur ligne directrice ?
Bon, d'abord, les constructeurs traditionnels continuent à être multi-énergie. Donc, ils vendent des véhicules thermiques.
Ce qui n'est pas le cas de Tesla,
voilà,
qui
fait hybride, que l'électrique. Ouais. Et électrique. Donc, mais ça, bon, c'est plus difficile pour eux.
Mais 2035, voilà, il y a cette échéance de 2035.
Tout à fait. En 2035, la vente de véhicules neufs sera interdite pour les véhicules thermiques. Donc, ça veut dire que l'industrie automobile européenne doit se transformer, doit devenir 100% électrique. Et ça, c'est un défi majeur pour tous les constructeurs automobiles. Je pense qu'il y a besoin d'aide de la part de l'Union européenne. J'en parle dans le livre. Ce que font les États-Unis, les Chinois et l'Union européenne a besoin d'aider la filière.
Oui, et puis il y a toute la data aussi que récoltent ces véhicules, et notamment Tesla. Est-ce que ce n'est pas aussi ça l'or du futur pour Elon Musk, la data récoltée dans les voitures?
C'est déjà l'or du futur puisque Tesla vend sa propre assurance grâce à une évaluation de la conduite du conducteur. Et donc, votre prime d'assurance varie suivant votre score. Et donc, ça veut dire que ce sont les données qui permettent de faire le scoring du conducteur.
Parce que vous accélérez, parce que vous freinez, parce que vous allez trop vite.
Exactement.
Parce que vous avez une conduite brusque, etc. Tous les capteurs dans la voiture enregistrent tout ça et donnent ça aux assurances, en fait.
Tout à fait. Et, enfin, donne ça aux assurances. Tesla utilise pour faire
sa propre assurance.
Voilà, sa propre assurance et ne donne pas les données à d'autres assureurs, mais le garde pour lui, analyse la performance des conducteurs et fait évaluer la prime. Attention quand même, j'en parle dans le livre, il y a des conducteurs qui font une action en justice parce qu'ils disent « Moi, j'avais pris une assurance à, par exemple, 600 euros par an et puis maintenant c'est 800 et donc le contrat initial a évolué et moi, je me serais pas engagé pour 800 euros. Donc, la data a des vertus, mais attention, elle peut avoir aussi...
Oui, des effets pervers.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Franck. Et cet ouvrage, donc, disponible chez tous les bons libraires et en ligne, bien évidemment. Tesla a tué la bagnole, paru aux éditions Descartes et compagnie.